Les rendez-vous prestataires certification sur Radio Immo.
Bonjour les amis, merci d'être avec nous. Les rendez-vous de prestataires, je vous rappelle les amis, on vous donne des thématiques mensuelles et on essaye de répondre à un certain nombre de questions autour justement de la fabrique de la ville et notamment des usages et de la consommation même de la ville en termes d'inconfort. Par exemple, on va parler de l'été, mais c'est également les problématiques qui sont liées aujourd'hui aux bonnes pratiques pour tout ce qui touche aujourd'hui au bâtiment, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. L'inconfort d'été, ça va être la thématique de notre émission du jour. On va essayer de comprendre un peu mieux et essayer de répondre également à vos questions, comment adapter nos bâtiments à l'inconfort d'été, qui est une notion qui devient de plus en plus prégnante dans l'industrie immobilière. Pour en parler, nous avons les meilleurs experts du marché avec nous. J'ai le plaisir de retrouver sur le plateau Bertrand Hérault. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Bertrand, vous êtes directeur de la RSE de l'innovation chez Kaufmann & Broad.
Absolument.
Merci d'être avec nous. C'est important d'avoir votre retour en tant qu'expert du sujet. On a également Thomas Lemerle qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Thomas, vous êtes responsable R&D chez Pouget Consultant et représentant du groupe de travail Confort d'été et Définergie. Merci d'être avec nous parce que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, quand on voit le climat qui fait à l'extérieur, on comprend pourquoi vous êtes là également.
Avec plaisir.
Merci de nous partager votre expertise. Également avec nous, on est très heureux de le recevoir. C'est Lionel Jacolin. Bonjour Lionel.
Bonjour à tous et
Lionel, vous êtes expert climat, secteur bâtiment à la Banque de France. Oui, ça ne s'invente pas à la Banque de France et vous allez nous expliquer pourquoi. C'est très important que vous soyez là et on est très honoré de votre présence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans l'excellent Rodolphe Barrault. Bonjour Rodolphe.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va, très bien. Sylvain.
Je suis ravi de vous retrouver. Alors Rodolphe, il est responsable référentiel et qualité chez Prestataire Certification. Un petit clin d'œil à nos amis Caroline, Justine, Anne, Karine et bien sûr, sans oublier, notre ami Hugo. Alors, l'inconfort d'été avec l'intensification des vagues de chaleur, les amis, ça devient un défi majeur pour les acteurs publics et privés, et c'est donc un sujet également de santé publique et de bien-être dans l'habitat. Qu'on soit collectivité, promoteur, bailleur, aménageur, exploitant, entreprise, tous sont confrontés à la même question. Comment on va concevoir des bâtiments, comment on va les rénover, et comment on va les rendre vivables et respirables, si je peux me permettre d'ajouter cela, avec toujours la même attractivité, finalement conjuguer l'attractivité et la sobriété. Pas simple, hein, pas simple du tout, face aux canicules à venir et donc également au niveau usage. On va parler également du confort thermique avec un sujet qui touche les usages et la qualité des occupants, l'attractivité des territoires, avec effectivement les problématiques, bien évidemment, puisque la règle, c'est toujours financier, c'est les coûts d'exploitation et de l'adaptation, la performance des bâtiments, bref, ainsi que la résilience au changement climatique. Alors, on parle beaucoup, finalement, du confort d'été, de l'inconfort d'été. Vous rappelez cette phrase un peu punchline, on est passé de la passoire à la bouilloire, vous savez, à la bouilloire thermique. Alors je voudrais qu'on fasse d'abord un petit tour de table, si vous êtes bien ok les amis pour cela, j'aimerais savoir de quoi on parle. On va commencer par le général. Bertrand, on est passé de la bouilloire, enfin de la passoire à la bouilloire. Et finalement, nous on a quelques années de métier, et c'est vrai que cette notion de l'inconfort d'été n'était pas aussi prégnante que les problématiques que posait l'hiver et le chauffage, par exemple. Ça devient une donne absolue. De quoi on parle, selon vous ?
Absolument. Il y a eu 30 ans de réglementation et de suivi pour un bâtiment moins énergivore. Et le sujet était d'abord les consommations de chauffage, puis les consommations d'énergie pour l'eau chaude sanitaire. On a cherché à réduire les consommations en termes de kilowattheure par mètre carré. Début 2020, une nouvelle réglementation est arrivée pour que l'on regarde également les niveaux d'émissions de CO2. C'est la RE 2020, réglementation environnementale 2020. Et le climat changeant également, cette réglementation introduit une notion de confort d'été. On parlait de logements qui doivent rester vivables. C'est encore mieux s'ils sont confortables, agréables à vivre. Et cette notion de confort d'été, elle doit se conjuguer avec le confort thermique que l'on a pu obtenir en hiver. Et donc, c'est très bien de ne plus avoir de passoire thermique, mais l'objectif est également d'éviter la bouilloire thermique et donc d'apporter un niveau de confort thermique, hygrométrique, qui est également très agréable pour le corps humain dans les périodes estivales et supportable dans les périodes extrêmes de canicule.
Et l'habitat, finalement, est en train de s'adapter complètement à cette nouvelle donne.
Exactement. La fabrication, la conception, la rénovation de logements adressent un double objectif, atténuer les émissions de carbone et dans le même temps, adapter les bâtiments pour qu'ils soient confortables. Et il faut garder à l'esprit que le bâtiment, ce sont des projets de temps long. Les bâtiments neufs que nous réalisons seront encore là en 2050, en 2100. Le climat moyen qu'ils connaîtront, ce ne sera pas le climat de 2026 avec les canicules estivales, mais c'est encore un autre niveau de stress pour le bâtiment et ses habitants. Le climat de 2050, le climat de 2100. Et donc l'objectif, c'est d'intégrer ces paramètres climatiques futurs qui seront moyens pour la durée de vie du bâtiment dans les objectifs de conception pour un mode de vie agréable pour le corps humain.
Bien sûr, bien sûr. On va en parler d'ailleurs, on va développer. Lionel Jacolin, vous, la Banque de France, vous êtes lié bien évidemment à toutes ces problématiques puisque vous êtes un peu la ligne rouge qui définit quelque part le cadre réglementaire mais aussi la vision de l'ensemble des activités économiques. Parlez-nous un petit peu. D'abord, je voudrais vous préciser votre rôle à la Banque de France, qu'on comprenne bien pourquoi la Banque de France, justement, a créé ce poste très important, mais également le même avis sur comment comprendre ce phénomène aujourd'hui, où cet inconfort d'été, qui est palpable, hein, qui est palpable pour tout le monde, hein, on l'a bien vu, avec une répétition d'épisodes de plus en plus rapprochés sur des canicules qui sont parfois extrêmement compliqué à vivre. Je rappelle juste qu'il y a une canicule il y a quelques années dans notre pays qui a fait plus de 15 000 morts en l'espace de 2 mois. Juste, donc c'est pas anodin et c'est pas anecdotique du tout. Toutes celles et ceux qui nous écoutent en savent quelque chose. Lionel.
Donc oui, moi au sein de la Banque de France, en fait, je travaille plus particulièrement sur l'indicateur climat. L'indicateur climat, c'est un indicateur qui a été lancé par la Banque il y a 2 ans, donc en 2024. L'idée, c'était quoi? C'était dans le cadre de des missions stratégiques de la Banque. Une des missions, c'est accompagner les entreprises françaises. Donc justement, sur cette prise de conscience, sur l'adaptation, aussi bien aussi également sur la transition. Donc prise de conscience justement de la nécessité de l'ensemble des entreprises françaises de regarder effectivement ce sujet-là qui aura un impact potentiellement sur la viabilité économique. Et nous, en tant que Banque de France, on se propose effectivement de faire cet indicateur donc gratuitement pour les entreprises, pour leur permettre d'avoir effectivement un cadre, du moins des éléments pour leur dialogue presque nécessaire, j'ai envie de dire, avec leurs investisseurs, comme vous disiez tout à l'heure.
Vous êtes d'accord, on ne peut plus être structurellement finançable ou financé si on n'a pas intégré toute cette dialectique, cette narration, cette norme qui va s'imposer de plus en plus, ou qui est déjà d'ailleurs en train de s'imposer.
C'est ça, nous, à la Banque de France, mais même à la CPR, donc c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation, on constate effectivement que les banques, même les assureurs, prennent ces risques climatiques de plus en plus dans leur stress test ou dans leurs évaluations. Donc effectivement, c'est des questions qui seront posées ou qui se posent déjà, je pense, aux entreprises. Et donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir, pour nous, en tout cas, en tant qu'institution indépendante, de fournir cette première évaluation, hein, ce premier constat pour les entreprises, pour leur donner des éléments sur leur activité, des choses qu'elles font déjà sans même s'en rendre compte, leur donner des éléments pour pouvoir dialoguer avec les investisseurs.
Est-ce qu'ils ont conscience, justement, de toutes les conséquences et des risques économiques sur les bâtiments, l'immobilier en lui-même, en sachant que l'immobilier, comme on le sait aujourd'hui, est un fort émetteur de carbone et que effectivement, dans l'usage également, on voit que les entreprises ont un rôle déterminant à jouer à ce niveau-là. Est-ce que vous percevez que les entreprises sont de plus en plus évangélisées, entre guillemets, sur ce type d'orientation?
Alors nous, ce qu'on constate avec les 2 premières campagnes que l'on a fait en 2024-2025, déjà, c'est une nette différence, hein, entre les sujets de transition et les sujets d'adaptation.
Mieux compris aujourd'hui ?
les entreprises, en tout cas, sont beaucoup plus matures sur la transition D'accord. que sur l'adaptation. L'adaptation est arrivée après, en tout oui. cas. Donc, on voit nettement, hein, dans l'évaluation qu'on réalise, que, quel que soit le secteur, hein, d'ailleurs, et quelle que soit la taille de l'entreprise, une différence, hein, sur le sujet de l'adaptation. Donc, une nécessaire, à mon avis, prise de conscience, hein, qui doit être réalisée par les entreprises sur ces sujets-là. C'est pour ça que je suis très content d'être ici.
Lionel, cette prise de conscience, pour qu'on précise bien, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. D'ailleurs, 87% des acteurs de l'économie immobilière sont de la TPE, de la PME. Mmh. Autrement dit, nous n'avons pas, il faut être très honnête, les patrons de PME, de TPE, les mêmes infos, les mêmes organisations. Moi, j'aimerais bien avoir dans mon groupe un délégué climat et résilience éventuellement dans le truc, mais on n'en a tout simplement pas les moyens. Mmh. Donc on a besoin de vous à la Banque de France pour nous évangéliser. On a besoin de grands acteurs comme Kaufmann, on a besoin de prestataires, on a besoin des consultants aussi pour travailler là-dessus. Est-ce que, dans la disconnexion entre les grandes entreprises qui ont les moyens de réfléchir, qui sont staffées, capées d'ailleurs pour le faire, et le monde de la TPE, de la PME, y a-t-il ou pas une distorsion ? Est-ce que vous avez du recul là-dessus ?
Alors oui, il y a une différence de moyens qui est claire entre les entreprises du CAC 40 et les entreprises qui sont des TPME.
C'est clair.
Ça, c'est OK. C'est ce constat, justement, qu'on a réalisé. Et c'est pour ça que l'indicateur, justement, est lié. Notamment sur les sujets d'adaptation, nous, on a mis en ligne, là, en début d'année, un outil qui s'appelle l'ODAC, donc l'outil de diagnostic pour l'adaptation au changement climatique. C'est un outil qui est gratuit et accessible à toutes les entreprises, donc y compris okay. les TPE.
On peut y accéder par Internet.
Exactement.
On va donner l'adresse Internet, ouais. si vous voulez bien, sur le podcast. Donc, www.
Ah, pardon, c'est sur l'espace dirigeant. Alors, c'est sur dirigeant tiré.
Alors, espace dirigeant, comment on fait pour se connecter, je veux dire ?
C'est sur le site de l'espace dirigeant, vous vous connectez. En fait, toute entreprise, effectivement, D'accord. peut accéder à son espace dirigeant. L'espace dirigeant, ça vous permet, effectivement, d'avoir aussi les données financières que réalise la Banque de France. Ouais, on fait de la cotation financière ouais, depuis ouais. 50 ans. Ouais. Mais on a rajouté, effectivement, en plus de ça, l'évaluation environnementale. Ouais. Ouais. Et notamment, cet outil qui va vous donner l'exposition des établissements de l'entreprise suivant les trajectoires de la traque, donc c'est la trajectoire de...
Donc TPE, PME, j'y accède pareil.
Exactement.
Et je peux avoir les mêmes éléments. C'est Exactement. Important ce que vous dites, pourquoi ? Parce que souvent, la Banque de France, on ne soupçonne pas les services que vous proposez au monde de l'entreprise. Et c'est Exactement. Très vrai. On a l'impression qu'on voit, on voit en la Banque de France une espèce de gendarme de la régulation qui nous tape sur les mains, etc., dès qu'il y a un souci. Mais au contraire, moi, j'ai eu affaire à la Banque de France pour un tas de services économiques. C'est ultra efficace.
Mm-hmm. C'est le service qu'on s'appelle public de demain ou du mois d'aujourd'hui, en tout cas. On a plus justement ce côté de bâton. Voilà, on essaye de s'adapter aux besoins, en fin de compte, des entreprises notamment. Ouais.
Merci beaucoup. Alors justement, bon, le débat continue avec vous, Thomas. Alors Thomas, avec Pouget Consultant et Finergie. Alors on va parler d'indicateurs de mesure. Donc là, on va parler du DH. Ça veut dire quoi le DH ?
Le DH, ça veut dire degré heure.
D'accord.
Et qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça mesure quoi ? Alors, je demande le degré heure.
Ouais, bah déjà, peut-être un peu d'historique. Avant le DH, il y avait un indicateur. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
Voilà, ça parle à personne.
Non.
Le TIC ou la TIC. Donc, c'était en RT 2012.
D'accord.
Donc, l'ancienne réglementation.
Ok. J'ai eu la TIC, mais c'était pas...
C'était autre chose. Voilà.
C'était autre chose.
Donc, c'était un indicateur qui ne fonctionnait pas bien, qui ne servait pas grand-chose. Et donc, en 2020, il y a eu le DH qui est arrivé dans la nouvelle réglementation. Et donc, degré heure, le calcul, il est assez simple. On va regarder heure par heure la température qu'on ressent dans le logement. Donc, par exemple, on peut ressentir 31 degrés dans le logement versus une température de confort qui, par exemple, va être de 26 degrés. Et donc, on va faire la différence entre les deux. Donc, 31 moins 26, ça nous fait 7 degrés heure, pardon. 5 degrés heure, la fatigue du matin, 5 degrés heure, et on va faire ce calcul sur toutes les heures de l'année. Et ensuite, on va faire une somme.
Ah, vous faites une moyenne, en fait, c'est un peu une règle de 3, quelque part.
C'est pas une moyenne, c'est une somme. Et donc, on va faire le calcul sur toutes les heures de l'année.
Et l'objectif ?
Et l'objectif, c'est de pas dépasser un certain seuil. Voilà.
Un exemple pratique, c'est possible ?
Un exemple pratique... Donc, il y a deux seuils en RE 2020. Il y a le seuil bas qui est à 350 degrés heure. Donc, si on est en dessous, on considère que notre bâtiment, il est très confortable.
En termes de confort thermique.
Voilà.
D'accord.
Et on a un seuil haut en logement collectif ou en maison qui va être à 1250.
Ah la vache, et ça arrive ?
Ça arrive surtout sur les projets de l'arc méditerranéen, donc ce qu'on appelle la zone H3.
Alors vas-y, allez-y, H.
H3, donc c'est, la France est découpée de manière assez grossière en 8 zones climatiques en RE 2020. Et donc on a les deux zones du sud, H2D et H3, qui sont l'arc méditerranéen, où on est systématiquement ou très souvent au-dessus de 1250 degrés. Donc là...
Mais c'est insupportable.
Là, on est obligé.
On est sur des températures ressenties à plus de 30 degrés, là.
Oui, du coup, ça implique d'avoir plusieurs heures, plusieurs heures dans l'année à 30, 32 degrés dans le logement, ce qui implique qu'on est au-dessus du seuil réglementaire.
Ah ouais, c'est... Et justement, vous avez dit que le TIC a été remplacé par le DH, on est d'accord ?
Oui, c'est bon. Ça.
Donc, est-ce qu'il est efficace ?
Ce DH ?
Oui, objectivement. Parce que vous nous avez dit, je reprends vos mots, que le TIC, il servait à rien. Bon, et la RE 2020 a introduit la mesure DH, on est d'accord là-dessus ?
Oui, c'est ça.
Cette mesure DH aujourd'hui, est-ce qu'elle est compatible aujourd'hui avec les usages ? Elle est suffisante. Autrement dit, cette réglementation-là est-elle suffisante ?
On va dire qu'on a fait une bonne première marche, une bonne étape. Il y a beaucoup encore d'imperfections dans ce calcul.
Mais pour vous, c'est quand même positif.
C'est surtout positif sur l'arc méditerranéen, où là, on voit que les conceptions de projets neufs changent.
D'accord. Elle change, ça veut dire que grâce à ces mesures, alors je parle en présence du promoteur, on adapte les modes constructifs, il faut bien qu'on sache de quoi on parle, en fonction du territoire et du climat, voire même de la géologie du territoire.
Je dirais pas forcément les modes constructifs, mais plutôt les solutions passives utilisées.
Très juste.
Pour limiter l'inconfort d'été.
Très juste.
Donc
merci.
Ça va être par exemple des brasseurs d'air ou des volets très performants.
Bien sûr, bien sûr. Et merci. On voit que vous êtes consultant hein, dans le truc. Il faut être très précis avec vous. Question un peu tartine à la crème, c'est quoi les principales causes de surchauffe ?
Les principales causes de surchauffe, ça va être...
Le climat, c'est sûr, mais bon, d'accord.
Ça va être essayer de limiter les apports de chaleur. Donc la chaleur dans un logement, en fait, elle rentre surtout par les fenêtres. Si on ne ferme pas ses volets l'été, c'est comme si on avait un radiateur qui chauffait alors que c'est la canicule. Donc c'est un non-sens en fait. Et donc c'est sur ce point qu'il faut travailler en priorité.
En fait, il faut réfléchir la chaleur au lieu de l'emmagasiner.
Réfléchir la chaleur.
Enfin, réfléchir, ça arrive, on réfléchit, on renvoie.
Oui, il faut empêcher qu'elle rentre dans le logement.
Ouais.
Donc ça va être travailler sur des bonnes occultations performantes.
Ouais. Mais alors là, franchement, il faut travailler les usages et les tutos là. Moi, chez Effinergie, je propose qu'on fasse des tutos en disant aux gens, il faut fermer les volets.
Bah, c'est pour
parce
ça que
ce que font les gens, c'est aujourd'hui pleine lumière, on ouvre et on surchauffe.
C'est pour ça que chez Pouget, on travaille beaucoup sur la maîtrise d'usage. Et on dit souvent, lorsqu'on fait des formations, c'est que le confort d'été, ça dépend autant du bâtiment que de son utilisation par les occupants. Parce qu'on a beau mettre un bâtiment très très performant, si les occupants l'utilisent mal, après ils vont aller se plaindre.
C'est très clair. Rodolphe, les opérations qu'on certifie, est-ce que ça fait partie du cadre ? Bien évidemment. C'est sûr. C'est intéressant, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi c'est important d'ailleurs que vous interveniez. C'est, franchement, ça devient... on devait vous prescrire comme la sécurité sociale, mon cher Rodolphe.
Allons-y.
non, franchement, mais c'est hyper important, parce qu'en fait, vous donnez, un peu comme d'ailleurs fait notre ami Lionel, quand il donne les règles de fonctionnement à des entreprises qui découvrent finalement et qui ne savent pas comment s'y prendre, vous leur permettez effectivement de se repérer dans l'espace de l'inflation réglementaire et normative, hein, faut quand même le dire. Comment ça se passe ? Je veux dire, on observe climat par climat, territorialité par territorialité, comment ça se passe ?
Alors, en fait, le principe même de la certification est lié à la thématique de l'inconfort d'été, et on parle bien de l'inconfort d'été, parce que souvent on dit le confort d'été, mais aujourd'hui on est plus sur de l'inconfort d'été, puisqu'on a de plus en plus de périodes longues, on va dire, d'inconfort dans les logements.
Donc quand on parle de bouilloire, on a raison, quoi.
Exactement. Ouais. Le rôle de la certification, c'est effectivement d'être le lien et le liant de tous les différents organismes, que ce soit les institutionnels qui peuvent être un peu les donneurs d'ordre,
en disant bah voilà ce qu'il faut faire, ce que vous, on vous demande de faire à vous maître d'ouvrage. Donc là après on a les maîtres d'ouvrage qui doivent effectivement répondre aux demandes des institutions ou des pouvoirs publics directement pour pouvoir répondre à l'adaptation climatique, notamment liée à l'inconfort d'été. On a tous les bureaux d'études qui sont spécialisés pour mettre en œuvre et répondre en réalité à ces directives-là. Et après, vous avez le certificateur qui vient regarder, contrôler et justifier de l'atteinte de tous ces objectifs. Comme disait Thomas tout à l'heure, on était... Depuis une trentaine d'années, effectivement, on s'occupait, on va dire, de l'inconfort d'hiver et de se prémunir, en fait, des périodes de froid. Et on a beaucoup isolé les bâtiments, je parle d'un point de vue thermique. Et parfois, effectivement, le revers de la médaille, c'est que les bâtiments qui ne ventilent pas assez avec cette surcouche d'isolation thermique font qu'aujourd'hui, on a un inconfort d'été. Et évidemment, les réglementations aussi, par le biais des certifications qui apportent la valeur ajoutée, le retour d'expérience dans ce domaine-là, et on travaille avec beaucoup d'organismes pour faire évoluer les réglementations. Donc, on est passé de la RT 2012 à la RE 2020 en tenant compte, effectivement, à la fois d'une performance énergétique, mais de mieux ventiler aussi les logements pour gérer cet inconfort d'été et ne pas garder la chaleur une fois que le chaud est rentré dans les logements. Et donc, en fait, la certification répond au travers de plusieurs thématiques, parce que ce que disait Thomas est tout à fait juste, il faut gérer l'inconfort d'été de façon passive. Parce qu'on pourrait, alors il y a des endroits hein, où...
C'est-à-dire, précisons.
En réalité, on pourrait très bien répondre à l'inconfort d'été, on met de la clim partout, on allume à 21 degrés,
ah oui,
et puis on a réglé le problème.
Ouais,
mais là, en réalité, ouais. On va régler le problème 10 minutes, et puis après on va le payer d'ici,
oui, parce que,
d'ici 15 ans.
C'est comme
parce
un
que
frigo, hein, le frigo,
exactement.
Ça fait du chaud, pourquoi pas du froid, pour que ça passe du
on
chaud.
On sait très bien que le
clim,
bilan carbone
mettre,
de la
voilà.
climatisation n'est pas du tout la solution, donc il faut des solutions passives, mais qui sont multiples. Ça peut être effectivement la peur de protéger protection solaire, ça peut être aussi sur le réfléchissement des matériaux, hein, ce qu'on appelle l'albédo okay. des matériaux, sur
donc
la couleur des matériaux.
La conception même du bâtiment.
La conception même, ça peut être l'apport lié à la biodiversité. Si vous mettez de la végétalisation dans les centres-villes, on s'aperçoit qu'en centre-ville, on peut réduire de 6-7 degrés directement en mettant des arbres et en instaurant de la biodiversité. Ça peut être aussi les toitures végétalisées qui permettent de réguler. Donc, il y a beaucoup de thématiques qui rentrent en ligne de compte pour gérer cet inconfort d'été et les référentiels de certification.
Donc voilà, ça a été critérisé.
Exactement, permettent de répondre avec plusieurs critères à ces sujets-là et évidemment garantissent à l'arrivée, par le biais des certifications, l'atteinte de ces résultats pour répondre à l'inconfort d'été notamment.
Merci pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet qui est celui de construire aujourd'hui les bâtiments de demain. Alors ça fait très communication de dire ça. On pourrait même le mettre dans le titre, dans le rapport annuel aux actionnaires. Non, je plaisante. Construire, on sait que combien 80% de ce qui nous entoure sera toujours là en 2050. En
ouais.
2050. Ouais. Même plus, même un
le
peu plus.
Le renouvellement du parc, c'est 2% le logement neuf. C'est 2% ouais. par an le renouvellement du parc.
Absolument. Et d'ailleurs,
années.
En France.
Les bonnes années, oui.
Ouais, en France, il y a une catastrophe. Une catastrophe structurelle et qui est un vrai sujet qui a touché bien sûr le monde de la promotion immobilière dont le marché s'est réduit de moitié, faut juste le dire hein, quand même hein. Il y a des régions où il y a 60% de moins de production de logements neufs. Donc inutile de vous dire que une très grosse moitié de promoteurs immobiliers qui n'ont pas su s'adapter ils ont été fichés à la Banque de France parce qu'ils ont mis un pignon à terre et certains ont été liquidés, j'en connais beaucoup. Bon. Et c'est vraiment pas drôle parce que sans les promoteurs, on ne peut pas aujourd'hui équilibrer le rapport de la pression du logement entre l'ancien et le neuf, etc. C'est un vrai sujet et c'est un sujet sur lequel je me bats, mais tu le sais Bertrand, depuis des années, on porte cette parole. On va fonder beaucoup d'espoir sur le Jean Brun, bien sûr, on va fonder beaucoup d'espoir. Parce qu'entre ça et rien, on va se contenter du Jean-Brun. Mais il y a un vrai sujet. Question, comment on fait quand on s'appelle Kaufmann, donc question à Bertrand, pour intégrer des enjeux dans lesquels on se dit, c'est un peu schizophrénant d'ailleurs quand on y réfléchit, on se dit, il faut que je construise, mais en même temps, il faut peut-être que je réversibilise, ou peut-être que je pense que l'usage de ce que je fais maintenant avec la temporalité, parce qu'en moyenne, une opération, il faut compter 6-7 ans, en moyenne, voilà, avec ça aussi, c'est un vrai sujet, la temporalité, pour pouvoir m'adapter aux usages de demain. C'est quoi les enjeux? Si on devait résumer de façon même philosophique, comment le nouveau promoteur New Generation va s'adapter à tous ces bouleversements?
La question est très bien posée. Le promoteur nouvelle génération, quand il s'intéresse d'abord à un site, à un terrain, la matière première du promoteur, c'est le foncier. Il ne regarde pas seulement des critères de constructibilité de ce terrain, mais il étudie aussi l'exposition, la résilience potentielle du foncier à des risques climatiques. Parmi les risques climatiques, on peut retrouver les sujets d'inondation, de remontée de nappes phréatiques, de recul du trait de côte, d'exposition aux feux de forêt, et évidemment le sujet d'exposition aux sécheresses ou aux périodes de canicule, vagues de chaleur. Donc la qualification du foncier, elle intègre ces paramètres. Et le promoteur nouvelle génération, il a dans ce défi à relever, qui est accessoirement extrêmement intéressant, il a beaucoup plus d'informations aujourd'hui que ce que le promoteur d'il y a 50 ans avait.
Oui.
Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les modélisations du climat.
Mais c'est plus complexe.
C'est plus complexe. On peut aussi trouver que ça rend l'exercice de conception de projet intéressant.
Le profil des promoteurs aujourd'hui, intellectuellement, techniquement, financièrement, est nettement supérieur à ce qu'il était.
En tout cas, il faut intégrer ce bagage de compréhension du dérèglement climatique et puis intégrer à la qualification des fonciers des terrains les paramètres d'exposition, de résilience aux aléas climatiques, dont les vagues de chaleur. Ça, c'est une étape qui est intégrée dans le processus de qualification des terrains. Et en fonction de ces diagnostics préliminaires, certains risques sont rédhibitoires. En général, ils sont assez cadrés par les différentes réglementations. Et puis, les spécificités du foncier au regard des enjeux d'adaptation au changement climatique vont intégrer, influer les premières orientations de conception.
Alors, question. Quand on parle de conception, on parle aujourd'hui d'innovation. Alors, je vais faire... On parle de fabrication hors site, avec aujourd'hui la capacité à produire mieux, plus court, dans des délais raisonnables, avec une meilleure appréhension du public, parce qu'on sait qu'on a, malheureusement, on fait face... et notamment les élus locaux vous le disent hein, tous les jours, à un refus catégorique de la population à avoir la grue en face de chez soi ou des travaux. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes qui, le vendredi, chez le maire, leur demandent une place à la crèche, mais elle n'est pas construite parce que l'immeuble ne va pas se construire en face, etc., etc. Donc c'est compliqué quand on est promoteur aujourd'hui d'essayer de travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que la concertation a pris une place chez vous très importante, ça je le sais.
Absolument.
Et c'est vachement bien parce que vous avez réduit de plus des deux tiers les recours possibles sur les opérations. Donc quelque part, la vitalité démocratique permet de partager mieux l'expérience. Donc je pensais au hors-site, aux structures bois, au circuit court avec l'économie circulaire, mais également à des solutions techniques intelligentes avec de l'intelligence artificielle, la possibilité d'utiliser aujourd'hui une technologie qui commence à vraiment se développer. La question que je vous pose, c'est dans ce kaléidoscope de plein de solutions qui créent une émulation, ça va pas être simple quand on s'appelle Kaufmann de faire les arbitrages économiques et techniques.
Je me permets un petit contre-pied, mais dans ces phases de conception, il y a une sorte de pyramide de bonnes solutions dans la boîte à outils. Et avant d'aller dans les choses peut-être extrêmement techniques ou très innovantes, il y a le bon sens, le pragmatisme, la connaissance précise du site, du territoire et des solutions qui sont frugales. Et en premier lieu, en conception, l'intelligence de conception, c'est de mobiliser, d'optimiser ces leviers. La première famille de solutions pour participer à la résilience des bâtiments que nous concevons, c'est ce qu'on pourrait appeler les solutions fondées sur la nature. Et là où on parle très vite de matériaux, de solutions techniques, de modes constructifs ou de technologies...
C'est ça qu'on appelle le biomimétisme ?
Alors le biomimétisme peut rentrer dans cette famille, s'inspirer de la nature pour décliner des solutions au projet. Il faut souligner qu'à chaque fois qu'un promoteur fait un bâtiment, en tout cas c'est le cas de Kaufmann & Broad, il fait aussi un jardin. Nous réalisons autant de jardins que de bâtiments. le jardin, il n'est pas nécessairement technologique, il peut l'être aussi un petit peu, mais il recèle énormément de solutions pour rendre le projet dans son ensemble, bâtiment, espace extérieur, très agréable à vivre et particulièrement résilient aux différents aléas climatiques et notamment les vagues de chaleur. On pourra développer les solutions, mais s'inspirer de la nature pour concevoir des espaces extérieurs extrêmement résilients qui vont participer au confort thermique, à la qualité hygrométrique du site, accessoirement à la signature architecturale et paysagère du projet, sont un gisement de solutions extrêmement fondamentales, bien avant d'aller sur les notions technologiques. La deuxième famille de solutions sont plutôt des solutions qu'on pourrait qualifier de frugales, très peu consommatrices d'énergie, avec des systèmes techniques qui sont simples. Thomas évoquait les brasseurs d'air, par exemple, qui permettent de ventiler et de participer au confort d'un logement.
Ou de systèmes passifs. Ce n'est pas de la BMC.
Non, un brasseur d'air.
Un brasseur d'air, je qu'on précise pour...
Un brasseur d'air, c'est ce qu'on retrouve dans certains pays tropicaux lorsqu'on voyage. C'est simplement une pale de ventilateur qui est souvent fixée au plafond et qui rend une température un peu plus élevée, agréable.
Mais c'est un ventilateur. Mais ce ventilateur, il est alimenté par de l'électrique.
Absolument, mais c'est un moteur qui consomme vraiment peu au regard de la valeur ajoutée que ça apporte, et c'est sans commune mesure avec la consommation d'une climatisation.
Vous avez raison, mais ça va mieux en le disant. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des brasseurs d'air alimentés par de l'électricité, on est d'accord. Oui, avec la petite molette là qu'on...
Alors ils sont plus comme ça, mais c'est la même technique.
Voilà, quand j'allais au Mexique, j'adorais ça, ces trucs, etc. Et puis voilà, pour les amateurs de cinéma, il y a dans Indiana Jones et le Temple Maudit, il se bat contre un mec qui se fait alpaguer au ventilateur. Non, c'est-à-dire que la consommation, le poids carbone, l'utilisation de l'énergie du brasseur d'air est ultra maîtrisé par rapport à ce que les effets positifs, c'est ça?
Absolument. Ça rentre dans la famille des solutions qu'on peut qualifier de frugales, auxquelles on adjoint la famille des solutions passives. Quand on a bien conçu les espaces extérieurs, on commence à s'intéresser au bâtiment, d'abord par la teinte de ses façades. Vous n'aurez pas le même ressenti thermique dans un bâtiment qui est fait de briques ocre qui absorbent énormément de chaleur, plutôt que de teintes claires qui vont réfléchir...
L'ocre, dans les pays méditerranéens, on comprend pourquoi, effectivement, c'était utilisé.
Exactement. Teinte claire réfléchit l'énergie du soleil. C'est exactement ce que l'on souhaite faire lorsqu'on conçoit un bâtiment, alors qu'une teinte foncée, les briques très pourpres par exemple, ou les bardages sombres, vont emmagasiner la chaleur et rendre le logement moins confortable.
Dans les pays du Maghreb ou en Grèce, où on voit les trucs blancs, vous savez, c'est de la chaux, comme de la chaux
blanche,
etc.
C'est pour se protéger.
Bien sûr. Ou même d'aller dans le désert, de voir les Touaregs habillés en blanc... effectivement, pour réfléchir. Juste une question. Est-ce qu'on peut concilier, Bertrand, de manière objective, tous ces impératifs environnementaux avec un modèle économique? Parce qu'on sait que sans modèle économique, c'est pas viable. Hein. Est-ce que ça peut être viable économiquement?
Là aussi, il y a un alignement de performance des solutions. Les solutions les plus frugales, basées sur la nature, sont celles qui sont aussi les plus économiques. On peut rendre un projet beaucoup plus performant en densifiant, massifiant la plantation d'arbres feuillus au sud des façades qui laisseront passer la lumière en hiver et qui constitueront un masque et un ombrage idéal pour le logement, en conciliant cela avec la performance économique du projet et même au-delà, avec une signature paysagère et architecturale, avec une perception de qualité pour les bâtiments.
C'est-à-dire quoi,
et les habitants.
Une perception du beau, par exemple?
Exactement, le beau qui peut aussi passer par la nature, conjuguée avec la façade du bâtiment. Et on est vraiment sur ces notions de meilleure conception très tôt dans le projet des espaces extérieurs avec le bâtiment. On parle de système bâti-paysage dès les phases initiales de conception. Et ça, c'est nouveau dans la génération.
Donc, ce qu'on dit, pour bien résumer, c'est qu'on peut trouver son modèle économique, donc c'est adapté, indépendamment du fait qu'il est nécessaire, même impératif, de s'inscrire dans cette démarche environnementale proactive, bien évidemment, C'est Nietzsche qui disait que le beau est peut-être un élément du bien. Et c'est bien que dans le bien, on peut dire le bien, et le bien immobilier, bien évidemment, aussi, pourquoi pas. On le voit de plus en plus, d'ailleurs, dans les nouveaux usages. Thomas, chez Pouget, moi, j'ai envie de poser la question aux consultants que vous êtes. J'aimerais qu'on refasse un chapitre sur tout ce qui est solutions passives dont a parlé Rodolphe, les erreurs fréquentes de conception, ainsi que les leviers qui seraient les plus efficaces de cette phase projet, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces éléments-là ?
Je pense que la plus grosse erreur de conception, c'est d'utiliser le moteur de la réglementation, donc en construction neuve, ça va être l'ARE 2020, comme un outil de conception. C'est pas un outil qui a été adapté et créé pour faire la conception des projets. Donc nous, on préfère utiliser des grands principes qu'on utilise pour traiter le confort d'été, plutôt que le moteur ARE 2020, qui a une bonne première marche, mais qui est loin d'être parfait.
Bien sûr. En fait, ça veut dire que quelque part, si je reprends vos propos, vous allez même plus loin que l'ARE 2020, quoi.
Oui, c'est ce que propose...
Dans la réflexion, vous dites que c'est bien, mais vous vous arc-boutez pas d'un point de vue réglementaire uniquement là-dessus, mais vous allez plus loin dans la démarche. Il y a beaucoup qui le font. Hein.
C'est ce que propose Effinergie dans son label sur l'ARE 2020 aussi, où sur les trois quarts nord de la France, ils imposent un degréeur deux fois plus ambitieux que celui de la réglementation.
En fait, l'idée d'Effinergie, c'est finalement de devancer la réglementation.
C'est ça, c'est de préfigurer la future réglementation et d'imposer que tous les bâtiments construits sous le label Effinergie soient confortables en été.
Ça, c'est quoi les leviers les plus efficaces dans une phase projet, selon vous ?
Du coup, nous, on se rattache à chaque fois à trois grands principes. Le premier, ça va être limiter les apports de chaleur. Le deuxième, surventiler la nuit quand il fait plus frais dehors. Et le troisième, mettre des brasseurs d'air pour baisser de 3 à 4 degrés la température ressentie.
Un brasseur d'air, sérieux, ça fait baisser de 3 degrés.
Absolument, c'est la température ressentie. C'est pour ça qu'on dort beaucoup mieux quand il fait très chaud avec un ventilateur. Et lorsque c'est intégré à la pièce, que ça démarre automatiquement, c'est une solution qui participe beaucoup au confort d'été. C'est pas pour rien que c'est un système assez standard dans beaucoup de pays un peu plus au sud que le nôtre. Et donc, on les retrouve en particulier maintenant de manière quasiment standard sur l'arc méditerranéen, voire au-delà.
Lionel, vous, la Banque de France, je vous appelle la Banque de France, mais ça va être ça.
Je ne suis pas tout seul à la Banque de France.
Ça va être très sympa.
Quand vous entendez toute cette richesse, toute cette innovation des promoteurs affûtés, ingénieux, qui ont compris les innovations, qu'on voit des consultants et nos experts, les certificateurs, vous dites quoi ? Vous dites la France a un incroyable talent.
Oui, mais c'est ce que je dis.
Parce que quand je vois votre mission, vous vous dites là, je suis bien parce que je suis porté par une vraie intelligence collective.
Oui, mais c'était ce que je disais tout à l'heure, et c'est notre intuition, c'est-à-dire que une bonne partie des entreprises en France font déjà des choses, hein, d'accord ? Elles l'ont pas forcément mis en mots, elles l'ont pas forcément.
Oui. Elles sont comme Monsieur Jourdain, elles font de l'innovation sans le savoir. Quoi.
Exactement. Pas forcément affiché, etc.
Non, c'est vrai. Il y a des pratiques parfois de bon sens.
Exactement. Et c'est souvent ça.
Quand vous arrivez, on vous dit mais c'est génial ce que vous faites. Ah bon ? Ben moi je fais ça. Depuis, voilà, je trouve ça intéressant. Ouais.
Ben nous, typiquement, ce qu'on dans notre évaluation, c'est ça qu'on va regarder. C'est déjà effectivement cette prise de conscience qui existe ou qui n'existe pas. Et après, de regarder un peu les plans d'adaptation, donc notamment les solutions qui sont mises en œuvre, les solutions justement fondées sur la nature. Enfin, c'est exactement ces sujets-là qu'on essaie d'évaluer effectivement au sein des entreprises pour voir donc quel niveau de maturité effectivement elles sont arrivées. Quoi.
Alors, on va parler maintenant, si vous voulez bien, dans la dernière partie de notre émission, de l'adaptation du parc existant et des défis qui nous attendent, pour le dire. Rodolphe, on l'a dit tout à l'heure, 80% des bâtiments existent déjà, hein, y a pas de doute. L'existant, ça va constituer, alors il faut être très clair, ça va constituer l'enjeu essentiel des sociétés modernes, hein, mais également du business, hein, faut quand même le dire. Ça va nourrir toute une industrie, la régénération urbaine, ainsi que la mise en place d'indicateurs pour objectiver la performance. De quoi on parle exactement ? Et comment vous voyez finalement s'arc-bouter cette prochaine décennie qui va être décisive pour la ville ?
Oui, qui sera même plus qu'une décennie parce que quand on sait l'état du parc à rénover en France, qui est gigantesque...
Il y a quoi ? Il y a 50 ans de... Enfin, j'allais dire, moi, à chaque fois, je prends le truc, tu sais, je dis souvent, c'est le marché du siècle.
Oui, c'est vrai. Parce
c'est
que,
le chantier du siècle.
Ça fait effectivement, que ce soit les pouvoirs publics, il y a une quinzaine d'années, ont déjà porté le sujet en disant qu'ils allaient rénover 700 000 logements par an. Et puis on était plutôt sur une courbe de 150 à 200 000, même si on a quand même une accélération un peu aujourd'hui. La problématique, elle va même au-delà de ça. C'est que si on prend par exemple le parc du logement social, on a plus de 60% des occupants en 2030 qui auront plus de 65 ans. Et on sait que le sujet de l'inconfort d'été est encore plus compliqué à gérer lorsqu'on est une personne âgée. Donc la problématique, elle est effectivement fondamentale et sociétale, parce qu'on peut aller jusqu'à avoir des bâtiments qui soient inhabitables. Parce que comme le disait Bertrand, la crise qu'on connaît aujourd'hui en 2024, 25, 26, avec les difficultés, on va dire, saisonnières qu'on connaît, vont s'accélérer, s'accentuer, et les périodes de chauffe vont être de plus en plus longues et de plus en plus fortes. Donc si on ne rénove pas les logements, parce que depuis tout à l'heure, on parle effectivement de la RE 2020 sur les technologies, les solutions passives, etc., pour le logement neuf. Mais le logement neuf, c'est ce qu'on disait, c'est 2% de renouvellement, les bonnes années, 2% du renouvellement du parc. Donc en réalité, le vrai sujet dont on parle ce matin, il est sur la rénovation des bâtiments. Et pour ça, il faut des indicateurs. Donc il faut, comme on en parlait tout à l'heure avec la Banque de France hors antenne, c'était déjà de pouvoir identifier de quoi on parle, l'état du parc. Alors on sait que l'état du parc, on a fait beaucoup de diagnostics, mais d'un point de vue thermique, d'un point de vue d'un confort lié à l'inconfort en hiver. Mais aujourd'hui, effectivement, et de plus en plus, les bailleurs, les promoteurs s'intéressent à cet inconfort d'été parce qu'ils ont les retours des occupants immédiats. Lorsque on arrive, on va dire, de début mai jusqu'à fin septembre, et dans certaines régions, même, comme on disait, sur l'arc méditerranéen, des régions où ça dure encore plus longtemps, on a le retour immédiat des locataires qui disent « on n'en peut plus, on est sur des bouilloires thermique. Donc on s'en va sur des logements qui peuvent être inhabitables. Donc l'urgence, elle est vraiment sur la rénovation. Donc on a besoin d'indicateurs pour pouvoir demain identifier une future réglementation, que ce soit thermique et carbone, parce que les réglementations thermiques, Thomas pourra en appuyer, elles sont datées. On a des réglementations qui sont vieillottes, qui sont obsolètes, qui ne répondent pas à l'urgence en fait climatique sur la rénovation. Donc on a besoin d'indicateurs forts.
Là, c'est appelé à évoluer, on est d'accord.
Alors c'est appelé à évoluer, il y a des groupes de travail qui tendent à effectivement proposer des labels un peu l'équivalent du E plus et moins qu'on a connu pour la RT 2012 à l'appliquer sur le logement rénové. Mais évidemment, il va y avoir le problème du financement. C'est parce qu'aujourd'hui, les 700 000 logements qu'on nous promettait rénover qui n'ont pas eu lieu, c'est surtout un problème de financement. C'est qui finance ? Qui finance ? Parce que sur le parc logement social, on sait que ce serait le bailleur, mais il n'a pas forcément les moyens financiers. Lorsqu'on est sur du syndic de copro, vous connaissez très bien le sujet, c'est qui paye aujourd'hui ? Les gens n'ont pas forcément les moyens. Mais à force de reculer le problème, à un moment donné, l'échéance, elle arrive. Et ça va être de plus en plus compliqué. Donc on a besoin d'indicateurs forts, rapides et efficaces pour pouvoir rénover au plus juste les logements, qu'on ne dépense pas l'argent de façon inutile ou au mauvais endroit, parce qu'on s'aperçoit que les indicateurs n'étaient pas les bons, on n'avait pas les bons résultats, et que dans 15 ans, finalement, il faut recommencer parce qu'on n'est pas adapté au changement climatique. Donc, il y a des groupes de travail qui existent avec des consultants, beaucoup de structures qui s'organisent autour de ça, mais nous aussi, en tant que certificateurs, on est dans tous ces groupes de travail, puisque la certification a pour volonté de porter des solutions techniques qui sont au-delà du réglementaire, comme on le disait tout à l'heure avec le label et Finergie. Le certificateur, c'est effectivement un moteur qui permet aux différents maîtres d'ouvrage d'aller au-delà du réglementaire. Mais changeons déjà la réglementation existante pour l'adapter et avoir une réponse forte à l'adaptation climatique, parce qu'on s'en va quand même sur quelque chose de catastrophique avec des logements qui seront inhabitables dans quelques années si on reste comme ça.
C'est très clair. On peut pas être plus clair. Hein. Merci. Là, c'est, mais je pense aux élus qui nous écoutent et aux politiques. Hein. On est en pleine crise du logement. Il y a eu une modification du texte du Jean Brun qui a réintroduit 700 000 passoires thermiques, vous le savez, ça, hein, sur le marché. Il fallait le faire, de toute façon, puisque les professionnels ont salué l'action, mais ça n'affranchit pas les propriétaires comme l'industrie de faire les travaux qui correspondent pour le bien-être des habitants. Il faut savoir que l'habitat dégradé est un vrai sujet, non seulement de dignité également du logement, mais de décence tout court, bien évidemment. Thomas, les actions les plus efficaces en matière de rénovation, est-ce que, très franchement, on peut améliorer le confort d'été sans engager de lourdes opérations? C'est le vrai sujet. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des calculs en régénération urbaine sur des mises en place de solutions curatives pour justement améliorer le confort d'été, l'inconfort d'été, des fois, c'est pas simple et ça coûte, ça coûte par coin un bras. Hein. Donc voilà, question, le point de vue du consultant, et si vous avez deux, trois tuyaux, à la limite des leviers qu'on peut mobiliser pour convaincre les investisseurs d'y aller, on vous écoute.
Et du coup, le problème est posé, mais la bonne nouvelle, c'est que les solutions, elles existent.
Ça, c'est une bonne nouvelle, voilà.
Elles sont connues de tous et finalement, elles sont assez rudimentaires pour traiter le confort d'été. Et le principal, ça va être des bons volets, des bonnes occultations pour se protéger du soleil. Et les critères les plus importants, il y en a deux, ça va être une occultation qu'on a envie de fermer la journée sans être dans le noir complet. Donc c'est une occultation qu'on peut un petit peu incliner avec des lames inclinables,
des persiennes. Mais c'est ce que les pays européens, finalement, les persiennes, les vénitiennes, je sais pas comment on peut appeler ça, finalement, il faudrait peut-être qu'on vienne reprenne les idées du bon sens des villes sumériennes d'il y a 4000 ans pour retrouver, parce qu'ils avaient exactement les mêmes sujets. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu ça.
Donc des occultations, en plus, c'est souvent des volets battants, robustes, besoin forcément d'automatisation.
Ça peut être très joli, ça.
En plus, dans des centres anciens, c'est souvent apprécié des architectes.
J'adore. Il faut aller, vous savez, il y a une ville qui est magnifique pour ça, qui est vraiment magnifique. Vous devriez faire une ville totem, c'est Lecce, dans les Pouilles, à côté de Brindisi.
D'accord.
Et qu'on appelle la Venise du Sud. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette ville. Elle est justement où il y a des concentrations d'air chaud qui sont absolument phénoménales. Et c'est terrible, hein, vraiment terrible. Parce que la région des Pouilles est une région très exposée, très très exposée. Et il y a deux villes qui ont vraiment travaillé sur cette question extraordinaire. C'est Lecce et la ville de Monopoly. En bord de mer, dans lequel, en fait, dans le concept architectural, ils ont construit leurs bâtiments en fonction des rythmes du vent et de la ventilation. Ce qui fait que sans énergie extérieure, juste grâce au vent et à l'exposition même de la lumière, on arrive à réguler les températures. C'est formidable. C'est absolument formidable. J'étais épaté. Et c'est beau. En plus, c'est beau. C'est des très jolies. Alors, je ne sais pas qu'on appelle ça des vénitiennes ou des persiennes qui s'ouvrent à moitié. Et puis, la façon dont les pièces s'ouvrent, dans la structure architecturale, on a une ventilation à plusieurs niveaux qui s'opère. Et ce qui fait qu'on a l'impression, en fait, mais c'est phénoménal. On a une différence sans énergie possible, clim ou autre, de 4, 5, 6 degrés. C'est fou, hein.
Ouais, mais je vais en Italie en septembre, là, donc je vais pas dans cette région, mais je prendrai des photos de...
Ah ouais, Brindisi, aller à Brindisi et à Lecce, c'est magnifique. Même dans certaines villes, d'ailleurs, d'Italie, comme par exemple, il y a une ville qui s'appelle Caltagirone en Sicile, qui est incroyable et qui a été construite là-dessus. Parce qu'en fait, ils avaient les mêmes problèmes, mêmes sujets.
Ben, on voit que vous connaissez bien. Mais du coup, les bâtiments qu'on a construits en France, ils sont pas adaptés aujourd'hui aux fortes canicules. En Italie, ça a été le cas, mais en France, du coup, on va devoir composer avec l'existant, et souvent, par exemple, avec des logements non traversants. Donc non traversants, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre à deux façades opposées pour créer un courant d'air.
Mais oui,
mais quand même un gros problème dans l'existant.
Oui, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on se pose souvent la question de la rénovation par l'extérieur, en France. Et c'est quasiment tâche impossible dans certains cœurs de ville parce qu'ils sont protégés et ils ont un impact patrimonial. Je prends le cas de Paris, qui est le plus simple, le Paris d'Haussmann. Le Paris d'Haussmann, c'est quoi ? C'est 17 ans de travaux qui ont fait le Paris tel qu'on le connaît et 30 000 immeubles abattus et un assèchement de la Bièvre, justement, qui a permis d'assainir certains quartiers. Le seul problème, c'est que au 19e siècle, quand vous prenez les premières mesures à l'époque, que ce soit des mesures hygrométriques, mais également climatiques, on se rend compte que c'était pas un siècle qui était très, très chaud, même plutôt le contraire. Ce qui était le cas d'ailleurs en France, entre le 16e et le 17e siècle, on appelait ça d'ailleurs le petit âge glaciaire en Europe, qui fait qu'effectivement, il y a eu un impact sur l'architecture. Sauf que cette architecture aujourd'hui, elle est classée, c'est un patrimoine, c'est une tradition, mais elle n'est plus compatible avec les bouleversements climatiques. Ça va pas être simple. Hein.
Oui, c'est un vrai enjeu. Donc, en plus des occultations, on peut travailler sur les brasseurs d'air, on en a beaucoup parlé. Donc c'est...
Moi, je trouve qu'il y a une vraie solution. Hein,
c'est... là-dessus. Bah, j'en ai installé un juste au-dessus de mon lit dans ma chambre.
Ouais,
c'est super.
Ouais. Moi, c'est ce que je vais faire certainement.
C'est super.
Là, vous m'avez donné un tuyau en or massif. Là.
Et ça coûte 200 euros, un brasseur d'air.
Bah,
et ça consomme
génial.
Autant d'électricité qu'une ampoule.
Ouais.
Donc c'est vraiment une très belle solution. Et après, bon, on n'a pas beaucoup parlé de climatisation. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des...
Est-ce que la clim est condamnée ? Alors, je caricature un peu, hein. Je provoque. Est-ce que la climatisation telle qu'on la connaît, elle est condamnée, ou est-ce qu'on pourrait arriver, avec l'ingéniosité humaine, la technologie, faire que la climatisation ne soit pas aussi consommatrice de carbone que cela ?
C'est une question très complexe, la climatisation, mais je pense qu'il ne faut pas l'opposer ou l'interdire, il ne faut pas avoir de dogme dessus.
Et je pense qu'il y en a certains qui veulent ça, hein.
Oui, mais c'est pour ça que je fais ce petit préambule, c'est,
ouais,
que, c'est que dans certains logements, dans certaines zones climatiques, quand on a des zones de bruit fortes dans la rue, des logements non traversants, des petits logements comme des résidences étudiantes ou des résidences seniors...
Il faut la clim.
Bah, la climatisation peut être un vrai levier, mais il faut d'abord mettre en place les solutions passives
d'accord.
pour limiter...
Vous êtes d'accord, Bertrand, sur le promoteur ?
Oui, absolument. D'abord les solutions fondées sur la nature, puis les systèmes frugaux, et ensuite, si on est encore en zone d'inconfort, rafraîchir, climatiser. Climatiser, il y a différents leviers. Hein. On peut avoir des planchers rafraîchissants dans des systèmes énergétiques géothermiques.
Ah oui.
Donc on sait chauffer, on connaît le plancher chauffant, il peut aussi rafraîchir en faisant circuler un liquide plus frais. En période de vague de chaleur, on a des systèmes aussi qui permettent de réaliser l'eau chaude sanitaire, des ballons thermodynamiques qui, du coup, peuvent générer du frais, l'inverse d'un frigo, dans la pièce principale. Ça apporte un peu de confort. Donc il y a des systèmes qui permettent de venir dans les solutions technologiques.
En fait, c'est une combinaison de solutions pratiques, de bon sens.
Le bon sens, c'est ça.
Que j'entends. En termes de levier, c'est ce que vous voyez, moi, le plus pratique, avec les défis qui attendent les promoteurs. Est-ce que vous attendez, vous, en tant que consultant, des innovations majeures, comme la technologie, des choses extraordinaires, voilà.
On n'a pas vu d'innovation majeure. On a fait un petit appel à candidature là, l'autre fois, et, à travers un autre groupe de travail. Il n'y a pas eu de révolution. Je pense qu'il faut rester sur des choses rudimentaires. Là où il peut y avoir peut-être des innovations intéressantes, ça peut être sur la manière d'intégrer la climatisation en centre ancien. On voit qu'en Italie, en Espagne, il y a beaucoup de solutions avec juste deux trous en façade,
ouais.
Deux petits trous de 10-15 cm de diamètre où on peut intégrer la clim, c'est assez discret. Bon, il y a quand même des enjeux acoustiques, des enjeux d'intégration, mais ça peut être des solutions à creuser.
C'est très clair. Alors, Rodolphe, justement, si on prend justement l'adaptation du parc existant, on se rend compte que finalement, votre rôle, c'est intéressant comme métier que vous avez, puisque finalement, vous êtes au cœur, au carrefour de toutes ces réflexions, de toutes ces innovations.
Absolument.
Quand vous entendez, là, juste comme ça, à brûle-pourpoint, toutes ces ingéniosités, vous vous dites qu'on est plutôt sur le bon chemin, là.
On est sur le bon chemin, et moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a beaucoup parlé de solutions passives. Et je pense que la Banque de France, on pourrait être content, parce que financièrement, ça coûte moins cher d'anticiper la conception, comme Bertrand l'a très bien décrit tout à l'heure. Donc effectivement, on est aujourd'hui, tous les professionnels savent que pour répondre à ces enjeux-là, on n'a pas besoin de se barder de technologie, d'avoir des IA à tout va qui viennent gérer 25 000 ordinateurs pour faire baisser la température dans les logements. On parle quand même de solutions assez simples, hein, c'est-à-dire mettre des volets. On n'est quand même pas sur des innovations technologiques.
Un brasseur d'air qui coûte 200
voilà,
euros.
Voilà, des brasseurs d'air, des logements traversants.
Un arbre feuillu devant la fenêtre, des
peintures. On voit aujourd'hui de plus en plus de toitures terrasses qui sont peintes en blanc pour réfléchir la chaleur. Donc on parle de solutions qui sont relativement simples à mettre en œuvre, y compris dans le logement rénové, parce que mettre de la technologie dans des logements rénovés, on l'a vu avec les freins qu'on peut avoir avec les ABF parfois, c'est coûteux, et puis c'est parfois des solutions qui ne marchent bien pas, sûr. Qui ne sont pas possibles. Donc on a des solutions relativement simples à mettre en œuvre. Moi, je suis aussi d'accord avec Thomas, la climatisation, peut-être que dans 15 ans, les technologies justement pour arriver à décarboner plus facilement la climatisation, peut-être qu'on arrivera à des technologies qui feront que la climatisation pourra être mieux adaptée. Bien sûr. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, dans 15 ans, ce ne sera pas encore le climat d'aujourd'hui, quand on aura peut-être des 44, 45 degrés, parce qu'on s'en va aussi sur des températures comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, elle sera quand même inévitable en certains endroits, malheureusement, et il faut quand même être assez réaliste. Peut-être que les volets ne suffiront pas et les brasseurs d'air non plus, hein. Il faut quand même être assez réaliste. Mais en tout cas, on a des solutions passives, et on l'a vu, ce que je trouve intéressant, c'est l'anticipation dès la conception des opérations pour maîtriser aussi les coûts, que ce soit à la fois en construction ou en rénovation.
Ce qui est intéressant, c'est d'entendre que c'est curatif, qu'on peut avoir des solutions curatives, des solutions adaptées, bien évidemment, sur un sujet, puisque c'est la somme de ces actions qui vont permettre de le faire. Lionel Jacolin, justement, j'entendais le coût, finalement, de l'action et le coût de l'inaction. Quand on est justement Banque de France, on voit bien que c'est l'adaptation qui devient une nécessité, bien sûr économique, et comment finalement toutes ces innovations, cette façon de voir les choses, quand on est promoteur, quand on est expert, consultant, vont influencer les stratégies immobilières.
Oui, mais justement, sur le coût de l'inaction, nous, là, selon le NGFS, c'est le Network for Greening the Financial System. En fait, les répercussions des risques physiques chroniques sur le PIB mondial, ils atteignent environ 15% en 2050. Donc c'est dans le scénario des politiques actuelles, hein, c'est le scénario où la transition vers une économie bas carbone n'accélère pas. Donc ça a un impact significatif. Encore une fois, c'est pour ça aussi que la Banque de France, en tant que banque centrale, prend en jeu ces sujets, et effectivement est investi, hein, parce que l'indicateur climat, c'est un investissement pour nous qu'on considère nécessaire. Le bâtiment, pour nous, est un vecteur, est en première ligne, effectivement, de ces coûts-là. Parce qu'on a beaucoup parlé de logement, et c'est normal. Il faut aussi parler du tertiaire, puisque, effectivement, la grande majorité de nos activités sont dans un bâtiment. Il y a deux valeurs. Il y a la valeur des actifs, effectivement, mais il y a aussi la continuité d'activité. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous, on essaye de sensibiliser les entreprises, puisque ça peut avoir un impact direct, ces aléas climatiques sur les activités des entreprises. Donc encore une fois, nous l'enjeu, c'est de pouvoir effectivement, c'est que les entreprises se rendent compte que sur ces aléas climatiques, elles se rendent compte effectivement des lieux d'exposition et la criticité, pour effectivement connaître un peu l'état des lieux auxquels elles sont soumises, auxquels leur activité est soumise, pour effectivement ensuite mettre en place des diagnostics avec des conseils, etc., ou même en interne, mais en tout cas qu'elles identifient les processus qui peuvent être impactés par ces aléas.
C'est très clair. Alors, c'est important de rappeler, au risque d'être redondant et radoteur, mais que vous avez un rôle, la Banque de France, déterminant dans justement cette vision économique. Moi, je suis ravi d'en prendre l'étendue de vos services, et j'en profite, si vous permettez, de m'adresser au public en disant, voilà, surtout, ne considérez pas la Banque de France comme étant uniquement le gendarme de la finance française, comme c'est un peu que vous êtes perçu, bien évidemment, mais vous offrez un gamme de services. Je profite effectivement de ce que j'ai eu à l'occasion de le faire, de faire des audits de la Banque de France, qui vous propose des solutions d'audit et d'accompagnement qui sont extrêmement efficaces, et j'en ai été le témoin, puisque je l'ai utilisé, et ça a été vraiment extrêmement intéressant. Voilà, je le rappelle à toutes fins utiles. On va conclure avec vous, Bertrand. Construire, aujourd'hui, c'est préparer forcément 2050, il faut être très clair là-dessus. On vous a pas épargné, hein, vous, en tant que promoteur, ces dernières années, avec une politique, faut être très clair, hein, une politique publique qui a été malmenée, hein, au sens propre, malmené et malmené, dans le sens où la fin du Pinel et la désertion des investisseurs dans l'ancien, dans le neuf, a été problématique. L'idée, c'est comment vous voyez le fait qu'aujourd'hui, le nouveau promoteur, qui va éviter forcément les erreurs que nous commettions hier, va s'adapter au parc existant, et finalement, comment vous considérez-vous la notion de responsabilité sur l'acte de construire ?
Alors, sur l'enjeu de construire des bâtiments neufs qui, du coup, connaîtront un climat moyen de 2070-2100 considérablement différent, induit une responsabilité forte, collective, pour tous les acteurs impliqués dans la conception des bâtiments.
Très clair.
On a décrit comment le processus de conception évoluait. Il y a encore quelques irritants ou points durs dans ce processus. On peut mentionner, par exemple, le sujet de concilier les évolutions que doivent intégrer les bâtiments neufs pour être résilients. Par exemple, être doté de façades de teintes plus claires que ce que nous faisions par le passé, avec les enjeux d'architecture patrimoniale. Et donc là, il y a par exemple un enjeu pour l'État, je pense, de pousser la prise en compte des sujets d'adaptation au niveau des architectes des bâtiments de France. Imposer un attique métallique extrêmement sombre sur une façade sud exposée à un contexte
Alors,
de canicule.
Un attique, c'est quoi on...
C'est le dernier étage, souvent, qu'on retrouve sur les bâtiments qui peuvent être bardés de zinc ou de métal, souvent sombre. Imposer des teintes extrêmement sombres, c'est pas forcément la meilleure situation ou configuration d'avenir. Il peut y avoir une logique patrimoniale à le faire, mais il y a un défi, je pense, pour les architectes des bâtiments de France, de conjuguer les sujets patrimoniaux avec ces enjeux forts d'adaptation. Sinon, il est probable que les générations futures nous reprochent d'avoir choisi la teinte la plus sombre pour la façade la
très
plus exposée au
très
soleil.
Juste, très juste.
Ça fait partie des défis. Et puis, la responsabilité du promoteur, c'est un enjeu qui a deux jambes, celle de l'adaptation au changement climatique, dont les vagues de chaleur, mais c'est aussi de rester extrêmement engagé et impliqué dans les mesures d'atténuation du dérèglement climatique et donc de réduction des émissions de carbone. Par exemple, un promoteur comme Kaufmann et Broad s'est engagé sur une limitation de ses émissions de carbone alignée à une trajectoire 1,5, ce qui veut simplement dire diviser par deux les émissions de CO2 pour fabriquer un mètre carré. Donc on reste extrêmement engagé sur ce sujet.
C'est très clair. Il est l'heure de nous quitter, c'est la conclusion. Je vous propose un petit jeu pour terminer. Vous êtes d'accord? Un petit jeu?
Oui.
Voilà, je vais vous demander à chacun de me donner un mot, un adjectif, un seul, très spontané, comme ça, à boule pour point, qui illustre les propos qu'on vient d'échanger, ou même une idée que vous avez en rapport direct ou indirect avec le sujet. On va commencer par vous, Bertrand.
La résilience.
Alors, ah oui, pas mal.
Dont doit faire preuve l'industrie de la promotion en tant que les bâtiments clair. Que nous concevons.
Thomas.
Moi, je vais dire sanitaire. C'est un mot qu'on n'a pas du tout parlé.
Sanitaire, oui, tout à fait.
Et la canicule de 2003, c'était quand même 15 000 morts.
Ouais, c'est clair.
Et ça va devenir en fait un enjeu sanitaire.
Et de santé, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lionel.
Moi, c'est un groupe de mots, c'est prise de conscience.
Non, mais il m'en faut un. Il m'en faut qu'un. C'est la règle du jeu.
Ben, sa conscience. Oui.
Conscience, pas mal.
C'est qu'effectivement, que ce sujet, parce que comme on le disait, hein, les réglementations thermiques, elles existent depuis des dizaines d'années. Sur l'adaptation, au final,
c'est
très récent.
Bien sûr.
Donc c'est justement que tout le secteur économique et que aussi d'ailleurs les concitoyens prennent en compte ces enjeux-là plus rapidement, en tout cas, qu'on a pu le faire effectivement par le passé.
Rodolphe.
C'est possible.
Alors, un seul mot.
Possible.
Possible. Pas mal. Ah, je vous trouve très en forme, hein, les amis, aujourd'hui. Hein. Alors, afin que nous allions vers un schéma complet de résilience et rendre les choses possibles, d'un point de vue sanitaire, il faut en prendre conscience pour accompagner ce vaste mouvement de fabrique de la ville. Ce sera la conclusion de notre rendez-vous. J'étais très heureux de vous recevoir sur ce plateau avec cette thématique, qui est une thématique essentielle. Je rappelle que c'est la thématique du salon immobilier bas carbone qui aura lieu au Grand Palais les 2 et 3 septembre 2026, où nous avons un gros plateau déployé avec nos médias. Rappelez que c'est avant tout des hommes et des femmes qui vivent à l'intérieur de ces bâtiments, qui ont construit pour eux, pour leur bien-être, que ce qu'on soit promoteur, aménageur, expert, qu'on donne les bonnes pratiques également quand on s'appelle appel de la Banque de France ou avec les accompagnements des certificateurs qui sont essentiels pour équilibrer l'industrie de la ville. Voilà, le CIPCA qui sera le rendez-vous. On se retrouvera. Un immense merci à vous, Bertrand Hérault. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de la RSE de l'innovation chez Kaufmann & Broad. Un immense merci à Thomas Lemerle, responsable R&D chez Pouget Consultant et représentant du groupe de travail de confort DT Définergie. Changez rien, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très pragmatique, avec beaucoup, beaucoup de bon sens. Un immense merci à Lionel Jacolin pour venir nous voir, hein, pour parler de ce sujet éminemment important. Expert climat, secteur bâtiment de la Banque de France. Merci d'être venu, Lionel Jacolin. Et enfin, un immense merci à notre ami Rodolphe Barrault, responsable référentiel et qualité chez Prestataire. Merci aux équipes techniques de Radio Immo. Merci aux équipes de Prestataire et à toutes les équipes en global. Voilà, tout le monde, voilà, on vous aime. Ça a été peace and love. En tout cas, merci en tout cas pour cette émission extrêmement intéressante. Je rappelle que vous pouvez la réécouter sur les plateformes d'écoute qui vont bien, sur l'application de Radio Immo, mais vous pouvez également les commenter, liker sur les réseaux sociaux, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous, c'est bientôt les vacances, reposez-vous, soyez bien auprès des vôtres, et puis surtout, essayez de bien ventiler à la maison. Et puis il y a une chose qu'il faut qu'on fasse, tous, c'est de mettre un brasseur d'air chez soi. Je trouve ça absolument génial. Voilà, à très vite, merci à vous.
Les rendez-vous prestataires certification, une émission à réécouter et télécharger sur le site et appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.